Je me suis fait opérer de la thyroïde et ma voix a changé. Que faire? Lucie a 45 ans. Suite à des nodules thyroïdiens, elle a subi une intervention chirurgicale et au réveil, sa voix avait disparu. À 3 semaines de l'opération, elle ne retrouve pas sa voix habituelle et elle appréhende de retourner au travail. En tant que téléconseillère dans les assurances, elle parle au moins 5 heures par jour et elle craint de ne pas pouvoir suivre le rythme. Les difficultés vocales que rencontre Lucie sont liées à l'un des risques d'une chirurgie de la thyroïde, l'atteinte du nerf récurrent, qui permet aux cordes vocales de se rapprocher pour vibrer et produire du son. Durant l'intervention, il arrive que le nerf récurrent soit traumatisé, voire exceptionnellement sectionné quand c'est inévitable. Il peut aussi y avoir un œdème, un gonflement passager qui va impacter la voix durant une période de quelques jours à quelques semaines. Entre 3 et 8% des patients opérés de la thyroïde ont des troubles de la voix transitoire et 1% des troubles de la voix définitifs. Qu'est-ce que la thyroïde? La thyroïde est une glande en forme de papillon, mesurant environ 6 cm de haut et de large. Elle est située vers le bas du cou, juste en dessous de la pomme d'Adam, près du cartilage thyroïde. C'est une glande qui produit des hormones, ayant notamment un rôle sur l'humeur, la température du corps, le poids et le transit. Derrière cette glande se trouvent les nerfs récurrents qui permettent aux cordes vocales de s'ouvrir et de se fermer. Certaines maladies de la thyroïde nécessitent une intervention chirurgicale visant à enlever tout ou partie de la glande. C'est ce qu'on appelle une thyroïdectomie, totale ou partielle. Selon l'opération réalisée, le patient devra éventuellement prendre des traitements hormonaux qui remplacent les hormones habituellement produites par la glande. Comment fonctionne la voix? La voix est un instrument à vent. Nous avons deux cordes vocales qui sont situées à l'horizontale au milieu du cou. En haut de la trachée, c'est ce qu'on appelle le larynx. On peut les sentir vibrer lorsque l'on pose un doigt sur la pomme d'Adam et que l'on fait un A un peu long. Quand on veut parler, l'air des poumons est expulsé. Il va remonter dans la trachée et rencontrer les cordes vocales qui vont se rapprocher et vibrer. Le son va ensuite être amplifié par toutes les cavités, résonateurs situés au-dessus du larynx, comme la gorge, le nez. Et c'est ce qui explique que notre voix change quand on est enrhumé. Nos résonateurs se sont temporairement modifiés. Les cordes vocales forment un V pendant la respiration et se rapprochent quand on parle, mais aussi à la déglutition. Elles sont toutes petites, environ 12 à 17 mm chez la femme et 17 à 23 mm chez l'homme, et s'étirent et vibrent plus rapidement pour faire des sons aigus. Le nerf qui permet aux cordes vocales de se rapprocher pour vibrer est le nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur, qui passe à l'arrière de la glande thyroïde. Le nerf laryngé supérieur est quant à lui responsable de la sensibilité d'une partie du larynx, mais aussi de l'étirement des cordes vocales. Il sert donc à la déglutition et dans la production des sons aigus. Quelles peuvent être les conséquences de la chirurgie de la thyroïde sur les cordes vocales? Pour un petit nombre de patients, environ 5% en moyenne, la chirurgie aura des conséquences sur la voix. On appelle cela dysphonie, mais aussi parfois sur la respiration ou sur la déglutition. Le plus souvent, une seule corde est paralysée. De façon exceptionnelle, on peut avoir les deux cordes paralysées, mais parfois, ce sera en position de fermeture. Dans ce cas, le chirurgien pratique immédiatement une trachéotomie, trou à la base du cou, qui va permettre au patient de respirer. Le plus fréquemment, en cas de paralysie unilatérale d'un seul côté, ce sont les troubles de la voix qui vont inquiéter les patients. La voix peut être soufflée, voilée, éraillée, parfois plus aiguë que la normale, mais surtout peu efficace et fatigante à produire. Le patient peut aussi ressentir un essoufflement lorsqu'il marche rapidement ou qu'il monte un escalier et faire des fausses routes, avaler de travers. Les cordes vocales ne se rapprochant pas suffisamment pour protéger la trachée pendant la déglutition. Dans quelques cas, si une partie supérieure du nerf est atteinte, le trouble de la voix sera généralement discret. Par exemple, impression que la voix ne peut pas monter dans les aigus. exceptionnellement, la voix pourra aussi être nasonnée et la déglutition perturbée par des aliments qui paraissent stagner dans la gorge. Que faut-il faire? La première chose à faire est de consulter un ORL ou un phoniatre, médecin spécialisé dans les troubles de la voix, de toute urgence. Que la chirurgie ait été effectuée par l'ORL ou par un autre chirurgien, via le médecin traitant si besoin, pour voir s'il y a paralysie et ne pas mettre en place de comportements vocaux néfastes à moyen et long terme. Que va-t-il se passer après le rendez-vous ORL? Si une immobilité de la corde a été constatée par l'ORL ou le phoniatre, un bilan et une rééducation orthophonique seront préconisés. Que va faire l'orthophoniste durant le bilan et les séances? Durant le bilan, l'orthophoniste va poser beaucoup de questions sur l'utilisation de la voix au quotidien, qu'il s'agisse des activités professionnelles, familiales ou de loisirs. Puis il va écouter et enregistrer la voix en notant ses caractéristiques de timbre, éraillé, soufflé, voilé, de hauteur, grave, aiguë, d'intensité, forte ou faible. Il va aussi voir si le geste vocal est fait de façon équilibrée en étudiant divers paramètres, posture, respiration, utilisation des cavités de résonance. Notez si la voix est efficace, fatigable et bien sûr, interrogez le patient sur ses antécédents médicaux et chirurgicaux, sur sa consommation d'alcool et de tabac. Le patient sera souvent invité à remplir une grille d'auto-évaluation de sa voix qui permet de rendre compte de sa gêne au quotidien. Un examen de la déglutition pourra aussi être envisagé s'il a des difficultés à ce niveau. L'orthophoniste va ensuite expliquer le fonctionnement de la voix et les bases de la rééducation. L'orthophoniste se mettra au besoin en contact avec l'ORL pour avoir un compte-rendu précis de l'examen pratiqué précédemment. Durant les séances, dont la périodicité va dépendre des troubles constatés et du protocole de soins choisi par l'orthophoniste, certains praticiens travailleront sans équipement particulier, d'autres utiliseront du matériel spécifique, logiciel, paille, etc. D'autres vont choisir des manipulations non douloureuses sur le larynx. L'orthophoniste va adapter son suivi au patient et à la progression et donner des conseils pour bien utiliser la voix au quotidien. La rééducation ne va pas permettre de faire bouger la corde immobile, mais éviter qu'elle ne s'atrophie trop. Elle va surtout apprendre à la corde saine à bien faire son travail de compensation. En parallèle, l'orthophoniste et le patient vont réfléchir à d'éventuels aménagements nécessaires durant la période de dysphonie, que ce soit au travail ou à la maison. Les éventuelles difficultés dans l'alimentation, le plus souvent des fausses routes, seront travaillées également en séance, de façon prioritaire, en adaptant la posture pour manger et parfois les textures alimentaires. Que peut-on attendre de la rééducation orthophonique en cas de paralysie récurrentielle ? La première chose que l'on peut attendre, c'est un confort vocal avec diminution du forçage qui risque de se mettre en place. Bien sûr, on attend une amélioration de la voix en elle-même, afin que le patient retrouve son timbre, le timbre proche de sa voix antérieure. Si le nerf est coupé, la conduction nerveuse ne se fera plus jamais et l'on compte sur une bonne compensation de la corde mobile. Si le nerf a été abîmé, il se peut qu'il y ait une récupération neurologique, mais cela peut prendre longtemps et reste aléatoire. Il faut donc s'appuyer sur la rééducation et sur les exercices que l'orthophoniste demandera de pratiquer plusieurs fois par jour. Au bout d'un certain nombre de séances, 10, 20, 30 ou plus selon le tableau initial, l'orthophoniste et le patient vont évaluer le confort vocal et le résultat acoustique obtenu. Et on prévoira au besoin un contrôle chez l'ORL ou le phoniatre. En cas de récupération insuffisante, d'autres options pourront être proposées. Injection de graisse dans une corde, chirurgie visant à rapprocher mécaniquement la corde. Ces solutions sont le plus souvent à envisager dans un second temps, en concertation entre le patient, l'ORL et l'orthophoniste. En conclusion, les troubles de la voix qui peuvent survenir après une chirurgie de la thyroïde demandent à être pris en charge en priorité par une équipe pluridisciplinaire, ORL ou phoniatre et orthophoniste, en lien avec le médecin traitant. la plupart des patients connaîtront une bonne récupération avec la prise en charge orthophonique, qui doit être précoce et régulière.